Regardez la fin du verset 8. « Le roi me donna ses lettres. » Pourquoi? Pourquoi est-ce que le roi a donné ces lettres-là? Parce que la bonne main de son Dieu était sur lui. Néhémie dépendait de Dieu. Néhémie dépendait pas du roi. Puis on avait vu dans le premier chapitre que Néhémie, cet homme-là de courage, mais son courage s'est manifesté premièrement en pliant les genoux devant Dieu. Et puis il dépend de Dieu et il le sait que Dieu sera devant lui, mais il néglige pas le fait quand même qu'il va aller devant le roi avec une idée bien présentable et qui peut montrer aussi au roi. Avez-vous vu comment est-ce que Dieu a pourvu à la protection? Par des lettres du roi. Dieu a pourvu à la protection, à la provision, par des lettres signées par la main du roi. Parfois, nous croyons que Dieu ne répond pas parce que, humainement, tout se déroule comme d'habitude. Il faut pas avoir, je trouve juste une petite parenthèse sur la réponse de Dieu dans nos vies, à nos requêtes. Dieu répond, Dieu est présent, mais quelle est notre foi pour voir, quelle était la foi de Néhémie pour dire « la bonne main de Dieu était sur moi, c'est pas parce que j'étais bon, c'est pas parce que j'ai été éloquent devant le roi puis que j'ai su présenter ma cause qui m'a donné les lettres. » Il savait que c'est Dieu qui lui a donné. La réponse de Dieu pour Néhémie, mais c'est manifesté à travers la main du roi qui lui signait. Cette semaine, la semaine dernière plutôt, j'ai amené mon plus vieux garçon à l'urgence, parce que ça faisait quatre jours qu'il faisait de la fièvre. Et puis là, il me dit, papa, je comprends pas pourquoi finalement on est obligé d'aller à l'hôpital parce que j'arrête pas de prier pour que Dieu me guérisse. Et, mais j'étais un peu bouché. Puis j'ai pas voulu le décourager de prier, hein. Sa question est tout à fait louable. Et puis, c'est une question d'un enfant que je suis sûr qu'en adulte, on se pose la même question. Mais savez-vous, ce que je crois encore aujourd'hui, Dieu a pourvu à la guérison. Il est guéri aujourd'hui, c'était pas grand-chose, là. Mais Dieu a pourvu à l'hôpital. Dieu a pourvu au médecin qui l'a vu. Dieu a pourvu à la pharmacienne. Dieu a pourvu aux médicaments. Puis Dieu a pourvu à la guérison aussi. Dieu aurait pu diriger différemment. Mais est-ce que la guérison que mon garçon a aujourd'hui, est-ce que finalement c'est juste le fil normal des choses qui s'est passé? Puis finalement, la bonne main de Dieu, étais-tu vraiment là? Regarde, on a juste suivi ce que tout le monde suit. Mais est-ce qu'on croit que Dieu répond à nos prières? Est-ce qu'on croit que la bonne main de Dieu est sur nous, puis qu'il nous dirige, puis qu'on dépend de lui, puis qu'on le reconnaît dans le bien qu'il nous fait aussi? Je crois que c'est une façon que de glorifier Dieu aussi, que de dire, oui, Dieu, c'est à cause de toi que ces choses-là se passent. Néhémie, pour lui, les lettres du roi, c'était pas parce qu'il était bon, c'est pas parce qu'il était sage. Il a usé de sagesse, de diligence, puis Dieu a répondu aussi. Pourquoi est-ce que Néhémie allait réussir? Pourquoi est-ce que Néhémie allait avoir le succès là où plein d'autres ont échoué avant? Hein? Jérusalem, là, on a essayé de faire toutes sortes de choses avec les... Ça fait déjà un certain temps que les Juifs sont retournés, mais ça marche pas, ils sont encore dans l'oppression. Pourquoi est-ce qu'avec Néhémie, il va y avoir le succès? Néhémie est un homme de courage qui s'est appliqué aussi à la sagesse, qui s'est appliqué aussi à la diligence. Et Dieu va lui donner le succès. Laissez-moi vous citer Proverbes 8, 12 à 16. « Moi, la sagesse... j'ai pour demeure le discernement. » C'est la sagesse qui parle. « Et je possède la science de la réflexion. Le conseil, là j'ai passé un petit bout, le conseil et le succès m'appartiennent. » Le conseil et le succès appartiennent à la sagesse. « Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. » Et pourquoi pas nous aussi, simple homme? Hein? Si on n'est pas des princes, des rois, cette sagesse-là, elle est disponible à nous aussi, que Dieu veut que l'on ait. Dieu va accorder le succès, le conseil, la réflexion, l'intelligence quand on recherche la sagesse qui vient de Dieu. Qu'est-ce qui différencie la folie du courage? Qu'est-ce qui différencie que Néhémie n'était pas simplement présenté sa cause devant le roi avec folie, mais avec courage? Celui qui dit ne pas avoir peur puis se lance sans réflexion est certainement un acte de folie. Mais il avait déjà certainement bien pensé. Celui qui avance, celui qui a peur, mais qui avance quand même, mais de façon diligente, est courageux. Pourquoi Néhémie allait avoir du succès? Bon, on doit, comme Néhémie, compter sur Dieu puis demander la sagesse de Dieu. Tournez, je vais vous le citer. On a beaucoup de choses encore à lire. Luc 14, OK? Je pense que vous l'avez déjà entendu. Mais je veux citer ce que Jésus a dit. Parce que même d'une façon très pratique, là, même d'une façon terrestre, là, la sagesse que Dieu nous accorde, il veut qu'elle soit applicable aussi dans nos vies. Dieu veut accorder le succès aux hommes, et ce succès-là est accompagné, doit être précédé de la sagesse. Car lequel, je suis en train de citer Luc 14, 28 à 30, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Pour Jésus, c'était sage, c'était diligent que de dire « Un homme qui veut bâtir une tour, là, première chose qu'il fait, il s'assoit. Hein? » On commence pas à bâtir tout de suite. Tu t'assois, tu réfléchis, tu calcules, tu penses, tu évalues. Parce que tu vas être sûr que ta tour, tu vas pas partir avec des grandes passions, des grandes idées, puis finalement, ça va finir que ta tour va être arrêtée à moitié. Puis qu'est-ce qui va se passer? Ben finalement, ça va être évident que tu n'as pas usé de sagesse parce que tu n'as pas su mener à terme ce pour quoi tu voulais commencer. Fait que même dans ce qu'il y a de plus de terre à terre, des projets vont réussir parce que Dieu te les confie. Et que tu prends le temps de t'asseoir pour calculer, évaluer, penser, réfléchir. Homme de courage, fais preuve de sagesse. La sagesse, on pourrait lire des proverbes, la sagesse est au coin, puis elle appelle. Puis tout le monde qui veut l'avoir, elle est disponible. Que celui qui manque de sagesse, dans quel aspect de ma vie, Dieu, je ne sais pas quoi faire avec ça, dans quel aspect de ma vie je me sens démuni? Dieu dit, demande-moi la sagesse. Puis je vais te la donner. Ça va me faire plaisir de te la donner. Mais il faut la demander aussi. Puis Dieu va prendre plaisir de la donner. Puis avec la sagesse, on l'a lu tantôt dans le proverbe, vient aussi le conseil et puis le succès. Homme de courage, deuxième chose, fais face aux difficultés. Homme de courage, fais face aux difficultés. Dieu donne le succès à l'homme de courage parce qu'il regarde les problèmes en face. Lequel d'entre nous, messieurs, aime entendre, chérie, il faut qu'on se parle. Lequel d'entre nous, messieurs, ou même mesdames aussi, aime entendre par son médecin, monsieur Chouinard, il faut qu'on se parle. Hein? Lequel d'entre nous aimerait entendre de son conseiller financier, monsieur un tel, madame un tel, il faut qu'on se parle. Ça, c'est pas de bon augure quand ça commence comme ça. Ça augure des problèmes, des difficultés. Lequel d'entre nous aime revenir à la maison puis découvrir sa maison brûlée ou inondée? Des fois, on se trouve devant des difficultés. Des fois, on se trouve devant des problèmes. Et personne n'aime être face à des problèmes, à des difficultés. Nous aimerions bien plus que la vie continue comme avant. Mais la pire gaffe qu'on puisse faire, que nous pourrions faire, c'est manquer de courage pour regarder les difficultés en face. Regardez Néhémie. On va regarder l'exemple de Néhémie. Néhémie, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. On va regarder l'attitude de Néhémie à travers la difficulté. Il est allé à Jérusalem. Il savait ce qui allait se passer. Il savait ce qu'il allait découvrir. Mais regardez qu'est-ce que Néhémie fait devant la difficulté, devant le problème. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée où je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Le voyage prend 2 mois à partir de Suse pour se rendre à Jérusalem. Néhémie prend 3 jours pour s'installer à Jérusalem, peut-être se reposer pour prendre une nuit blanche. Qu'est-ce qu'il fait pendant cette nuit-là? Il fait le tour de la ville. Il sort par la porte, puis il va voir à quoi ressemble la ville. Il va voir dans quel état est-ce qu'elle est. Regardez, il y a verset 13. « Je sortis de nuit. » Juste remarquez les verbes qui sont là, qu'est-ce que Néhémie est en train de faire. « Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la porte, vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. » Néhémie, il se promène, il regarde, il est pendant la nuit et il considère, il réfléchit, il regarde. Il est attentif. Il regarde l'état réel du désastre, de la difficulté. Regardez verset 15. « Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. » Néhémie, il considère encore, il prend le temps de regarder, de réfléchir, d'évaluer. Certainement qu'on pourrait tirer des applications aussi où ce que Néhémie est encore un homme diligent, encore un homme sage, ou ce qui s'assure peut-être de l'état réel, de l'état des travaux à faire. Mais pour regarder ce qui est à faire, il faut regarder ce qui est démoli. Il faut regarder les portes qui sont brûlées. Il faut regarder les murailles qui sont abattues. Et il faut constater l'ampleur des dégâts. Pourquoi est-ce que Jérusalem est là aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elle ressemble à ça? Pourquoi est-ce que les portes ont été consumées par le feu? Pourquoi ont-ils été détruits par d'autres nations? C'est des questions légitimes que les gens qui vivaient à Jérusalem devaient se poser. Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Un peu à l'exemple qu'on disait tantôt de Californie qui doit réfléchir sur des procédures, de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Néhémie est l'homme qui fait le tour de la ville et qui réfléchit, qui considère, qui regarde le problème, la difficulté en face. Néhémie n'est pas un homme pessimiste. Néhémie est un homme réaliste qui veut voir à quoi ça ressemble. Réfléchir à ce qui est nécessaire de refaire. Et c'est fait souvent raconter, Néhémie, il ne dit pas à personne qui sort, il y a quelques hommes avec lui, une bête de somme qui est avec lui, mais il ne dit pas à personne, aux grands, ni aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux chefs, ce qu'il va faire. Et il va constater de par lui-même. Quand il était à Suse, les gens venaient dire qu'est-ce qui se passait, mais là, il veut constater de lui-même. Comment, en tant qu'homme, on fait preuve de courage? Comment est-ce qu'en tant qu'homme, on fait face aux difficultés, quelle que soit la difficulté? Vous savez, c'est un peu contradictoire avec le succès, hein? Quand on est confronté à un problème, à une difficulté, ben ça pourrait nous laisser comme sentiment d'échec. Une difficulté que c'est l'opposé du succès. Mais en même temps, en faisant face à ce que Néhémie était devant, ça allait lui permettre aussi de faire un deuxième pas vers le succès pour rebâtir la ville. De ne pas partir avec des idées en se disant « ça va bien aller, je vais m'occuper de ça, on ne prend pas le temps de faire le tour de la ville, j'en ai entendu parler en masse. » Il va constater de par lui-même. Comment est-ce qu'en tant qu'homme, on fait face aux difficultés? Laissez-moi vous donner une application conjugale. Et il y a plein d'applications après ça qu'on peut donner en tant qu'homme, que ce soit sur le travail, que ce soit sur avec en tant que père, en tant que mari. John Gray, qui a écrit un livre intéressant, dit « Les hommes doivent se rappeler que si les femmes leur parlent de leurs problèmes, c'est beaucoup plus par souci de renforcer leur intimité que pour chercher à tout prix à résoudre les problèmes en question. Très souvent, une femme veut simplement raconter sa journée. Son mari, pensant lui rendre service, l'interrompt avec une avalanche de solutions à ses tracas. Il ne comprend pas pourquoi elle est contrariée. » Je trouvais que c'était une citation intéressante. Ben, je pense que ma femme me le dit aussi. En tout cas, je peux l'expérimenter. Quand ma femme va me raconter une difficulté, ben rapidement, hein, j'ai la solution. Puis je suis pas nécessairement intéressé à avoir tout de suite tout le problème. Hein. Regarde, je vais te donner la solution, on va régler ça, on n'en parlera plus. Mais en fait, il y a un courage quand on comme si on applique dans la relation conjugale où est-ce qu'on doit être prêt à ouvrir nos oreilles. Hein? Quand ma femme commence à me conter des difficultés, par exemple, sur l'oreiller, ben j'ai un moyen infaillible pour pas me sentir découragé, je m'endors. Mais non, c'est pas tout à fait vrai. Ça arrive, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais vous savez, l'exemple de Néhémie nous donne un bon équilibre entre les problèmes et les solutions. Néhémie est devant un problème et certainement il a besoin d'une solution. et nous devons prendre le temps d'écouter jusqu'au bout, avec patience, sympathie, quel que soit le problème. Ça va bien au-delà aussi de la relation conjugale, en s'efforçant de vraiment comprendre et de voir la réalité d'une difficulté qui se présente à nous en tant qu'homme. Souvent, en tant qu'homme, nous réfléchissons en termes de solutions. Mais il faut voir aussi, il faut prendre le temps de regarder la difficulté. En tant qu'homme, nous n'aimons pas entendre parler des problèmes parce que cela nous laisse justement une impression de défaite. Mais l'homme de courage fait face aux problèmes et c'est pourquoi Dieu lui donnera le succès. On doit prendre le temps de considérer, comme Néhémie, de reconsidérer, prendre le temps de réfléchir, de voir pourquoi la situation elle en est là, de voir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui est détruit, dans quoi j'ai besoin de m'investir et dans quelle que soit la difficulté. Un peu à l'image du salut. Nous devons voir premièrement la conséquence du péché dans nos vies pour apprécier la solution. On a besoin de comprendre c'est quoi la gravité du péché pour dire « oui, je comprends maintenant ce que Jésus peut transformer, peut changer dans ma vie. » Et ça, c'est de faire face aux difficultés. C'est de l'affronter. Puis Néhémie, comme je disais tantôt, c'est pas un homme pessimiste. Néhémie est un homme de courage qui fait face aux difficultés. Néhémie est un homme de courage qui a recherché la sagesse, la diligence. Et Dieu donne le succès à l'homme de courage parce qu'il garde espoir. Parce qu'il garde espoir. Pourquoi est-ce qu'on est découragé des fois? Pourquoi est-ce que devant une difficulté, on est découragé puis on a envie de baisser les bras? Mais on a besoin de garder espoir. On a besoin, je vois l'espoir un peu comme une bûche. On commence à chauffer tranquillement, pas vite, là, ces temps-ci, là. Et puis, pour que le feu, pour que la chaleur remplisse la maison, il faut constamment alimenter le feu. Et ces bûches-là, dans nos vies, doivent signifier un peu ce que c'est l'espoir que de dire constamment, je me rappelle, j'alimente ma vie de par l'espoir pour garder courage. Plein de fois, je ne sais pas si vous avez déjà lu des histoires ou entendu des reportages sur des survivants, mais les gens qui survivent à des catastrophes, à de grandes difficultés, souvent ces gens-là survivent comparativement à d'autres qui sont morts dans la même situation à cause de l'espérance, à cause de l'espoir d'en sortir un jour. C'est pas parce qu'ils ont eu plus d'eau que les autres, c'est pas parce qu'ils ont mangé plus que les autres, c'est parce que quelque part, ils ont gardé espoir puis ils ont continué d'avancer. C'est ce qui va donner le courage. On va lire les versets 17 à 20.